tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Ça vient pas de nulle part, émission de reportage et d'histoire sociale. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau format d'une demi-heure, le troisième vendredi du mois à 17h. Et c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui entre Menton et Vintimille, l'histoire d'une frontière et de ses migrants.
Il treno regionale 8609 DSNACF delle ore 13:25 proveniente da Grasse arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti.
I've been here for 3 days.
Je suis là depuis 3 jours.
Yeah.
À Vintimille depuis 3 jours.
My brother and
mon frère et moi sommes là depuis 3 jours pour essayer d'aller en France, mais ce n'est pas possible.
When you take the train, the police catch you.
Quand vous prenez le train, la police vous arrête. Ils vous arrêtent et vous demandent où est votre passeport, où sont vos papiers. Vous leur répondez que vous n'avez pas de passeport, pas de papier. J'ai essayé 2 fois, mais je n'ai pas eu de chance.
Il y a la montagne, il y a la mer et il y a le poste frontière. Il est rouillé, on l'avait abandonné. Mais nous sommes en septembre 2015, les accords de Schengen ont du plomb dans l'aile, et c'est le retour des policiers. Ici, entre Vintimille et Menton, entre la Riviera et la Côte d'Azur, entre l'Italie et la France, les douaniers n'embêtent pas les touristes, non. Ils sont là pour bloquer les migrants, les réfugiés du Soudan ou encore de l'Érythrée. Jadis, ils avaient refoulé des juifs. Pour raconter cette frontière au passé, nous irons voir l'historien Yvan Gasteau à l'université de Nice. Pour le présent, ce seront les migrants de Vintimille. Ceux du campement des Rochers de la Frontière, ce campement No Border qui depuis notre passage début septembre a été démantelé par la police. Nous irons voir aussi les migrants de la gare quelques kilomètres plus loin. Ceux-là dorment au centre de la Croix-Rouge puis suivent un passeur ou sautent dans un train vers l'ouest, vers la France, vers la suite de l'exil. On y va.
I'm from Sudan.
Je viens du Soudan.
Yeah, my nationality.
Je suis soudanais de nationalité.
I live in Darfur.
Je vivais au Darfour.
Very far from Sudan, no.
Très loin du Soudan.
From Sudan I live 2011.
Je suis parti du Soudan en 2011. Après, j'ai essayé d'avoir de l'argent, d'entrer en Europe. Maintenant, j'y suis, mais ma vie ne va toujours pas très bien. Il y a peut-être des gens qui pensent que ceux qui sont en train de migrer viennent faire de mauvaises actions.
Bad actions. Or maybe they are coming to do other
qu'ils viennent faire de mauvaises choses.
But in my point of view,
mais à mon avis,
you know, all these migrants,
pas tout le monde.
They are just migrants.
On est migrant à cause de la vie.
Because if you see a refugee,
parce que si vous voyez un réfugié,
going out of his
il ne quitte pas son pays, sauf s'il a des problèmes là-bas.
Yeah, if I were the
si j'étais bien dans mon pays, pourquoi je viendrais ici? Mais il y a beaucoup de problèmes. Les armes tirent dans tous les sens. Les gens combattent. Nos familles sont en train de mourir. Et personne ne regarde en arrière. C'est pour ça que je suis là. Donc, si mon pays allait mieux maintenant, j'y retournerai maintenant. Mais comment je peux y retourner alors que le feu terrorise? C'est impossible.
Yvan Gasteau, historien.
Alors, la frontière existe de manière affirmée et de manière administrative, celle-ci en tout cas à partir du moment où le comté de Nice a été rattaché à la France. Jusqu'alors les frontières de la France étaient le département du Var, jusqu'en 1860. Et d'ailleurs on a eu, au moment du coup d'état de Bonaparte, futur Napoléon III en 1851, des réfugiés français qui sont venus à Nice pour franchir la frontière et quitter la persécutions, en tout cas les violences que pourrait perpétrer le nouvel empereur. Donc il y a eu déjà une terre de refuge, mais c'était pas la même frontière. C'était le Var qui était la frontière géographique entre la France et le royaume du Piémont-Sardaigne. Bon, à partir de 1860, la frontière entre la France et l'Italie, c'est le pont Saint-Louis. C'est un pont qui avait été construit à la toute fin du XVIIIe siècle, notamment par les armées napoléoniennes qui partaient vers les campagnes d'Italie, vers la plaine du Pô, etc., qui avaient construit ce pont relativement en hauteur sur une zone escarpée pour permettre aux troupes de passer. Et en 1860, on a trouvé que c'était l'endroit idéal pour marquer une frontière parce que c'est un endroit très accidenté, très, très rocailleux. Donc la frontière s'est fixée là et à partir de 1860, donc, elle est devenue un lieu de passage important, elle est devenue un lieu de fixation des administrations douanières, hein, d'un côté français, de l'autre côté italien. Elle a été marquée physiquement par une borne, hein, qui a ensuite été détruite au moment du fascisme, mais qui avait existé pendant longtemps. Et cette borne était marquée, était signalée aussi par un trait blanc qui marquait véritablement la frontière d'un côté et de l'autre. La frontière est devenue véritablement un lieu d'attractivité. Pourquoi ? Parce que dans le tourisme hivernal sur la Côte d'Azur, beaucoup d'hivernants riches adoraient, aimaient beaucoup aller dans ce lieu qui est un lieu aussi agréable à fréquenter parce que escarpé, maritime, verdoyant. Et donc on faisait des excursions vers la frontière. Il y avait cette sorte d'excitation que d'aller aux marges du pays. Et par ailleurs aussi, évidemment, cette frontière était une frontière dont on évoquait souvent assez peu les problématiques de conflit, mais plutôt on mettait en avant, notamment sous la forme de cartes postales ou de documents plutôt de propagande, les douaniers français et les douaniers italiens qui fraternisaient aux abords de cette frontière.
8 septembre 2015, frontière franco-italienne.
Alors, depuis le 11 juin, il y a des migrants qui sont là pour protester contre la fermeture de la frontière.
Alexis, journaliste et militant anti-frontière.
Et donc leur premier slogan, ça a été « We are not going back ». Et ils sont arrivés ici, ils ont été bloqués par la police et ils sont installés là où nous sommes, à côté de ce parking et puis de cet office de tourisme désaffecté. Et également sur les rochers à côté du poste frontière. Alors au départ, les migrants, ils ont commencé la protestation seuls. Il y a eu quelques Européens locaux qui se sont agrégés pour les soutenir. Et ensuite, ça s'est transformé en camp no border avec des activistes ou des militants surtout italiens, mais aussi français, qui sont venus pour chacun, parfois avec des collectifs aussi, comme Eat the Rich, qui a apporté une cuisine. C'est une association de cuisine populaire en Italie. Et après, il y a eu plein d'autres, il y a plein de choses qui se sont créées, des cours de langue, des informations juridiques. Il y a eu des associations aussi comme Amnesty International qui ont commencé à venir, Médecins du Monde, et puis il y a des projets artistiques aussi.
Médecins du Monde.
À la gare de Nice, il y avait de nombreux migrants. Donc Médecins du Monde, puisqu'on a des équipes qui tournent dans l'année, qui font des maraudes le soir, la nuit, on passait à la gare pour s'occuper donc de ces migrants. Et depuis le mois de juin, depuis qu'ils sont bloqués ici, donc ils n'ont plus le droit de prendre le train et de passer en France. Donc à Nice, il n'y a plus du tout de migrants.
On a vu le nombre de personnes augmenter, après diminuer, et là depuis la semaine dernière, le nombre augmente. En ce moment, il serait 100 à 130. Essentiellement soudanais, voilà. Érythréens. Ils sont jeunes et en bonne santé, ils ont des problèmes.
De 15 ans à Les plus vieux qu'on voit, ils ont quel âge? 30 ans maximum, même pas. Même
mal à la gorge quand il fait froid. Voilà.
Il n'y a pas de pathologie vraiment.
Évidemment, cette frontière, elle est tributaire de la réalité des relations diplomatiques entre la France et l'Italie, qui au départ est plutôt... Les relations sont plutôt bonnes. Puis à partir d'un certain moment, je pense notamment à la fin du 19e siècle, les relations s'assombrissent et puis elles deviennent carrément antagonistes au moment où Mussolini arrive au pouvoir en 1922 en Italie et va faire état d'une certaine volonté de récupérer, entre guillemets, le comté de Nice et d'envahir le territoire des Alpes-Maritimes. Cette relation compliquée avec l'Italie va provoquer effectivement une fortification de la frontière puisque... déjà dans les années 1870, on va construire des forts qui vont être construits sur des ponts hauts, des crêtes pour surveiller l'éventuelle avancée de l'ennemi italien si jamais celui-ci se mettait en route. Et puis dans un second temps, au moment où de Mussolini, c'est la ligne Maginot qui va aller jusque-là pour défendre le poste de frontalier de Saint-Louis. D'ailleurs, il y a un petit ouvrage Maginot qui est sur le poste Saint-Louis. Après 1945, cette frontière elle va connaître un élargissement, si on peut dire. Et cette frontière, notamment avec l'arrivée de l'automobile, va devenir insuffisante. Il y a des queues terribles pour passer le pont Saint-Louis. Donc on va décider d'ouvrir une seconde voie au bord de mer. Sur cet ancien sentier des douaniers, on va donc construire une grande route qui va ouvrir un second poste frontière. Donc il y a deux postes pour un. Le poste Saint-Louis en haut, qui sera moins fréquenté du coup. Et puis en bas, le poste qu'on va appeler le poste du pont Saint-Ludovic, qui est au bord de mer, là où se situent actuellement les migrants qui stationnent devant cette frontière et qui va devenir un point de passage important avec un poste frontière assez emblématique construit dans les années 60 et inauguré en 1970.
We stay here about 8 days.
On est là depuis environ 8 jours. Okay.
We want to go to France,
on veut aller en France, mais la police a fermé la frontière.
Campement No Border, 8 septembre 2015. Border.
Je suis venu ici. J'ai traversé la mer Méditerranée parce que j'ai beaucoup de problèmes. Premièrement, je viens du Darfour, au Soudan. Au Darfour, la situation est très mauvaise. Parce que le gouvernement a tué plusieurs personnes dans mon village. Il a incendié le village et ma sœur est morte là-bas. Alors avec toute ma famille, on est allé dans la ville de Niali. On est resté 3 mois et après on a entendu dire que des organisations européennes et américaines étaient venues au Soudan et qu'elles construisaient des camps de réfugiés. Alors on est allé dans ces camps et puis on est resté. Mais après ça, le gouvernement du Soudan a expulsé plusieurs organisations. Il restait alors le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Mais après, la situation dans les camps n'était plus bonne. Il n'y avait plus assez de nourriture pour nous. Alors j'ai décidé avec mon frère de retourner à la ville. Mais à Niali, la situation n'était pas bonne non plus. Quand le soleil se couche, il ne faut pas sortir de ta maison parce que tout le monde a un pistolet et c'est pas bon. Après ça, on a pris la décision d'aller en Libye. Peut-être qu'en Libye, la situation serait meilleure qu'au Soudan. Mais quand on est arrivé là-bas, c'était pas mieux du tout. En Libye, j'ai travaillé pendant 3 mois. 1 mois après la fin du boulot, le patron ne m'avait toujours pas donné mon salaire. Il m'a dit, ne me demande pas ton argent. Si tu me le demandes encore une fois, je te tue. Il avait un pistolet. Alors j'ai dit, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je ne vous demanderai plus mon argent.
Après ça, j'ai cherché d'autres boulots. Une journée de travail de 10 heures, c'était payé $7 américains. Parfois, le patron ne me payait pas non plus. La Libye, c'est très mauvais. Après ça, on a économisé de l'argent. Et on a entendu dire que l'Europe, c'était très bien. Si tu vas en Europe, tu trouves la liberté, tu pourras étudier, tu trouveras une maison où t'installer. Et personne ne viendra te chercher des problèmes. Donc j'ai traversé la mer Méditerranée. Je savais que c'était très dangereux. J'avais un ami qui était mort en la traversant. Mais je connais la situation de mon pays et elle n'est pas bonne. Alors je me disais, si je meurs dans la mer Méditerranée, je meurs. Si j'arrive, c'est bien. C'est comme ça.
Dans les tourments du XXe siècle, dans les mouvements de réfugiés du XXe siècle, dans les mouvements d'immigration du XXe siècle, ce poste frontière de Menton-Vintimille, constamment emprunté, constamment concerné par les migrations. Alors évidemment, très nettement, les migrations italiennes, hein, déjà, qui sont tantôt des immigrations économiques. Je pense à, déjà à la fin du XIXe siècle. Mais il y a aussi une immigration clandestine et aussi une immigration de réfugiés au moment où Mussolini arrive au pouvoir. Beaucoup d'Italiens quittent l'Italie pour des raisons économiques mais aussi politiques. On les appelle les foruscite, les réfugiés italiens qui quittent le régime mussolinien pour s'implanter en France, souvent assez mal accueillis parce que considérés comme des révolutionnaires, des communistes, des socialistes, des faux migrants, hein, enfin des faux réfugiés, des vrais migrants. Donc on surveille la frontière parce qu'on a peur effectivement d'une arrivée trop massive de ces Italiens en France. Mais en même temps, on surveille aussi cette frontière parce qu'on a peur d'une invasion mussolinienne et des armées mussoliniennes.
Né paura, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, ribelle in cor ci sta.
Dans les années 20 et dans les années 30, on a d'autres types de migrants qui passent cette frontière. Ce sont les réfugiés juifs d'Europe centrale qui fuient le nazisme et l'avancée du nazisme. C'est-à-dire, bon, évidemment, les Allemands juifs ou les étrangers juifs d'Allemagne qui quittent l'Allemagne et qui se réfugient dans différents pays, notamment l'Italie. Je pense aux Autrichiens qui fuient l'Anschluss lorsque Hitler envahit l'Autriche. Je pense aux Tchécoslovaques qui seront amenés aussi à quitter leur pays lorsqu'ils sont juifs et menacés par Hitler, qui pendant un temps se sont réfugiés en Italie. Mais lorsque l'Italie adhère aux thèses hitlériennes en 1938 et lorsque Mussolini développe un antisémitisme qu'il n'avait pas développé auparavant, beaucoup de ces juifs qui étaient réfugiés en Italie vont passer par la frontière du Pont-Saint-Louis en 1938 et provoquer une immigration du type que l'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de réfugiés qui s'embarquent la nuit, notamment dans des navires, depuis des ports proches de la frontière, Bordighera, Vintimille, San Remo, Ospedaletti, etc., et qui vont ensuite traverser la frontière maritime et se retrouver échoués à Villefranche, Nice, parfois Antibes. Ça suscite une grande attention de la part des autorités qui voient un dénuement et en même temps un risque, un peu comme aujourd'hui. Donc on rééquipe la frontière, on renvoie parfois en Italie ces juifs, même si c'est vrai que c'est au mépris de leur vie. Et donc il y a cette problématique identique à aujourd'hui qui est posée à ce moment-là.
Septembre 2015.
Bah, généralement, les migrants ils sont arrêtés à la première gare qui est située en France, Menton-Garavan. Et là, les CRS, généralement, les emmènent donc au poste frontière du pont Saint-Louis, à côté duquel il y a ces containers entourés de barrières métalliques dans lesquels sont mis les migrants en attendant que l'Italie accepte de les recevoir au poste frontière italien avant ensuite de les renvoyer au centre de la Croix-Rouge à Vintimille. C'est une sorte de zone de transit. Après cette procédure, je crois que ça fait un an et demi qu'il n'y a pas eu de l'officier de l'OFPRA qui est intervenu. C'est assez rare qu'il y ait des interprètes. Et j'ai jamais entendu parler d'un seul papier qui leur a été remis. Donc c'est une procédure qui est illégale. Et après, parfois aussi, ça arrive que l'Italie, surtout ces derniers temps, ça arrive que l'Italie demande, enfin refuse la réadmission des migrants qui sont du coup relâchés au poste frontière et qui peuvent repartir vers la France, sauf que en sachant qu'ils seront de nouveau chassés par la police. Et ce qui constitue ce système en fait où ils sont renvoyés de la France vers l'Italie, alors qu'ensuite ils reviennent de l'Italie vers la France, les policiers français, ils appellent ça le ping-pong aussi. Et parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est absurde et que ça sert à rien en fait, tout leur travail il sert à rien.
28 mars 1982, journal télévisé d'Antenne 2.
Vintimille, place de la gare. Les contacts se prennent au grand jour. Les passeurs ne tardent pas à se montrer. Le trafic s'effectue sous les yeux de la police italienne. Rien légalement ne l'interdit.
J'habite au milieu de la France. Hein?
Oui.
Le village italien et tout autour, c'est français.
Oui.
Hein? Il y a 3 km avant d'arriver à Sospel.
Oui.
Hein?
Oui.
Trop de témoignages évoquent des clandestins dépouillés et abandonnés. À flanc de montagne, un chemin mène tout droit à Menton, tout droit à la mort. La nuit, les lumières de la ville indiquent un passage, le mauvais passage. 104 morts depuis la guerre, dont 2 jeunes frères tunisiens il y a un mois à peine. Les Italiens appellent cet endroit Porta Paradiso, la porte du paradis. Les pompiers français qui vont y chercher les corps le nomment le pas de la mort.
Voilà. On est arrivé à l'endroit vraiment dangereux, là, voilà. Ce qu'on appelle le pas de la mort, c'est vraiment ça. À partir de cet endroit, alors ça devient dangereux, on s'engage évidemment, on regarde, on se croit sur un sentier normal, et puis à partir de l'olivier sauvage que vous voyez un peu plus bas, là, eh bien alors là, c'est la catastrophe. Ou on s'accroche, on tient le coup jusqu'à ce que les secours arrivent, ou alors c'est 70 mètres de chute.
Lorsque le passeur n'envoie pas son client dans ce lugubre piège, il propose la voie ferrée, le bord de mer, mais le plus souvent l'autoroute.
53-51, vous écoute parler.
Les patrouilles de la police de l'air et des frontières contrôlent en permanence toutes ces voies. Les clandestins arrêtés sont remis aux autorités italiennes, juste derrière la frontière. Relâchés, ils tentent à nouveau leur chance.
Si vous voulez, dans les routes de l'immigration clandestine et de l'immigration légale, y compris après 1945, Menton-Vintimille est une sorte de passage obligé. Je pense aux Yougoslaves qui ont quitté le régime titiste dans les années 1955-60. Je pense ensuite beaucoup à l'arrivée, notamment dans les années 80-90, des Kurdes, des Kosovars, des Algériens qui quittent la décennie noire en Algérie en 1993-94, sont un ensemble de populations qui, vous voyez, ont aussi été concernées par cette frontière, traversée tantôt clandestinement, tantôt par la voie officielle, mais toujours avec une problématique sécuritaire du côté français, puisqu'à chaque fois, il y a une mobilisation autour de cela, y compris jusqu'à très récemment, en 2011, lorsque les frontières ont été pendant un temps rétabli sur place par l'autorité gouvernementale, notamment Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, pour faire face aux flux importants de Tunisiens, de Libyens réfugiés après les révolutions arabes dans leur pays.
Vintimille, place de la gare, septembre 2015.
Je viens du Soudan, plus exactement du Darfour, fuyant la guerre, une guerre civile. Depuis 2013, le gouvernement du Soudan nous bombarde avec des avions et nous envoie des milices pour nous tuer. Donc je suis parti, m'échappant du Darfour, pour arriver dans le sud de la Libye et aller en Italie. Du coup, je fuis pour traverser la frontière pour aller en France, puis ensuite se rejoindre le Royaume-Uni. La police française a fermé les frontières. Ils ne nous autorisent pas à entrer en France. J'ai essayé plus de 10 fois. À chaque fois, ils m'attrapent et me ramènent, et ils me disent de rester en Italie. Mais je n'aime pas l'Italie. Ce n'est pas un bon endroit ici. Calais, c'est mauvais aussi. C'est la même situation qu'ici, mais j'espère que les choses vont changer. Mais on ne s'attendait pas à ça en Europe, que les gens nous traitent comme ça. Ils nous regardent comme si on était des criminels ou quelque chose comme ça. Pourquoi on ne nous autorise pas à aller en France? On est des pacifistes, on ne veut de mal à personne. Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse? J'espère que les autorités vont ouvrir les frontières pour tout le monde, pas que pour les Syriens. On est tous des réfugiés.
Ce qu'on peut dire ici, à travers ce genre de tour d'horizon historique, c'est une sorte de pérennité d'un poste frontière qui a constamment alimenté l'imaginaire local, mais aussi alimenté l'imaginaire des migrants qui y voient comme un passage obligé à l'équivalent de Calais. Et que du coup, en termes de modalités de contrôle, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte que cette idée d'hermétisme, elle est vraiment tributaire du temps dans lequel on se trouve et sans doute tributaire des contextes. Au milieu des années 90, les accords de Schengen ont été appliqués, le poste a été donc évacué, a été délaissé. Aujourd'hui, depuis donc 20 ans maintenant, quasiment 20 ans, c'est une ruine absolue, si vous voulez. Il n'y a plus rien, il y a un tas de rouille qui est là et qui marque encore ce passage de l'Italie à la France, mais on y trouve plus du tout de contrôle, sauf justement à des moments cruciaux où on voit de manière assez curieuse des policiers, alors non pas dans les locaux parce qu'ils sont cassés, mais aux abords avec leur camion ou camionnette contrôler cette frontière. Donc, aujourd'hui, on a ce fantasme de réaffecter les frontières, de les remettre sous contrôle. On peut considérer qu'il y a aussi sans doute un problème à la fois de bâtiments et d'effectifs et que tout ça ne fait l'objet que d'une sorte de regard assez fantasmatique. Il faut rassurer les opinions publiques sur l'idée d'hermétisme, un hermétisme qui n'a jamais existé en quelque sorte et qui nous amène plutôt à prôner le contraire, c'est-à-dire sans doute à aller plus loin dans l'ouverture des frontières plutôt que dans celle de retour quasi barbare à des lignes hermétiquement closes.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est presque fini. Sachez tout de même encore que le campement No Border, celui des rochers de la frontière dont vous avez pu entendre l'ambiance sonore, sachez que ce campement a été démantelé par les autorités italiennes le 30 septembre dernier, quelques semaines après notre passage. La majorité des migrants a été déplacée vers le centre de la Croix-Rouge qui était déjà surpeuplé. Pendant ce temps-là, le campement a été rasé au bulldozer, effets personnels compris, des militants anti-frontières ont aussi été interpellés. Depuis la mi-août, plusieurs d'entre eux se sont vus interdire toute présence sur le territoire de la commune de Vintimille. D'autres ont même été placés en détention provisoire. Sur ces heureuses paroles, ça vient pas de nulle part, c'est vraiment fini cette fois-ci. Alors à la technique, c'était Jean-Baptiste Humbert. Pour le reste, cette émission a été préparée par Marie-Noëlle Battaglia, Juliette Palmade et Claire Rivière. Au doublage, il y avait Emmanuel Bergouin, Romain Gâteau et Renaud Magnan. Merci à Aurélien Marcet pour les traductions, merci à tous les réfugiés, merci à l'historien Yvan Gasteau, dont on signale la participation à deux expositions à venir prochainement. La première sur le thème des frontières à la Cité de l'Immigration, c'est à Paris, à partir du 9 novembre. La seconde, plus spécifiquement dédiée aux frontières dans les Alpes-Maritimes, ce sera à Nice, aux archives, à partir de décembre. Vous retrouverez toutes ces infos, le podcast de l'émission ainsi que de remarquables dessins signés Domizia Tosato sur le site de Radio Grenouille. Une dernière info pour les Marseillais, un repas de soutien organisé par le collectif Soutien Migrant 13 ce soir, vendredi 16 octobre à 19h à la Casa Consola, rue Consola, c'est dans le premier. Bonne route à toutes, bonne route à tous et à bientôt.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.